Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Le début de la vaccination chez les généralistes.
Officiellement ça commence demain, mais certains médecins, vous le verrez, ont pris un peu d'avance. À suivre également dans ce journal, les Dunkerquois reconfinés pour le week-end. Une première livraison de vaccins gratuits pour le Ghana. La colère des sages-femmes face au manque de reconnaissance de leur travail. Et puis ils avaient laissé leur maillot de l'OM au placard. Le procès des supporters accusés d'avoir assiégé la commanderie le mois dernier.
RTL Soir.
Un peu plus de la moitié des médecins généralistes pourront commencer à vacciner demain après un passage à la pharmacie pour aller chercher leur dose d'AstraZeneca à destination des patients âgés de 50 à 64 ans qui présentent des facteurs de risque. Gauthier Delon-Bugard, vous avez suivi l'un de ces médecins aujourd'hui à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Sans attendre, il a commencé à vacciner dès cet après-midi.
Le docteur Éric Simon presse le pas pour se rendre dans sa pharmacie de quartier.
Donc vous venez chercher votre vaccin.
Et ben voilà, ce sont des flacons qui doivent être gardés au frigidaire, donc un frigo standard entre 2 et 4 degrés.
Voilà, deux petits flacons qui contiennent 10 doses de vaccin.
C'est cette semaine, c'est juste 10 personnes et ensuite ça sera 20. D'accord. Et puis après ça va augmenter au fur et à mesure. Là, ça va permettre de pouvoir atteindre la médecine de ville et vacciner énormément plus de personnes.
Le médecin a convoqué 10 de ses patients à risque âgés de 50 à 64 ans dès cet après-midi.
Bonjour,
bienvenue. Mohamed, 62 ans, est le premier.
Il y a des bons retours sur ce vaccin.
Et surtout une réduction assez importante du nombre de formes graves.
On injecte tranquillement, ça vous brûle ?
Non.
Voilà, c'est fini.
Merci. Il faut faire barrière à ce virus.
Là, est-ce que ça rend les choses plus sécurisantes de le faire chez le médecin que vous connaissez ?
Pour moi, si c'était ailleurs, je ne serais pas aussi serein et aussi à l'aise et aussi confiant.
Voilà, ok.
Merci beaucoup.
Première personne vaccinée, donc...
C'est vraiment une étape, je pense, dans la lutte contre cette pandémie.
Rendez-vous pris dans 9 semaines pour la deuxième injection. D'ici là, le patient doit tout de même surveiller les effets secondaires, fièvre et fatigue qui touchent 10 à 15% des vaccinés.
Dans le Val-de-Marne, le reportage de Gauthier Delon-Bugard pour RTL.
Et de deux après Nice et le littoral des Alpes-Maritimes, c'est donc au tour de Dunkerque d'être partiellement reconfiné.
Face à la flambée de l'épidémie sur place à cause du variant anglais, l'hôpital est saturé. Une soixantaine de patients ont déjà dû être transférés vers d'autres hôpitaux ce mois-ci. L'agglomération de Dunkerque sera reconfinée le week-end à partir de vendredi soir. Des nouvelles restrictions locales annoncées sur place par le ministre de la Santé. Vous l'avez suivi pour RTL, Antoine Decarne.
Oui, face à la situation et après s'être rendu à l'hôpital de Dunkerque cet après-midi, Olivier Véran a décidé de trancher.
À compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end.
Comme dans les Alpes-Maritimes, ce confinement se portera sur une zone géographique bien précise. L'ensemble de la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de communes des Hauts-de-Flandre sont concernés, soit environ 250 000 habitants. Mais face à la situation, le ministre de la Santé ne pouvait plus attendre.
Il ne s'agit plus de parler de dernière chance. Quand vous avez ce week-end 30 malades atteints du Covid qui arrivent chaque jour aux urgences, quand vous êtes obligé d'envisager de déprogrammer des soins précieux pour les habitants du territoire, la chance pour le territoire, c'est d'agir.
Pourtant, le maire de Dunkerque et président de l'agglomération, Patrice Vergritte, avait espéré des mesures de prévention moins strictes, mais il se plie désormais à la décision du gouvernement.
Nous voulons donner la chance à la prévention. C'est vrai qu'aujourd'hui, la décision est plus difficile parce que depuis 10 jours, le taux d'incidence a quand même très fortement augmenté. Mais je le soutiens, je le redis, c'est une décision difficile et je pense qu'il faut que la population le comprenne au regard de la situation du Dunkerquois.
Et en plus des mesures de confinement, on souhaite accélérer la vaccination. 16 700 doses de vaccins supplémentaires arriveront dans le Dunkerquois dans les prochains jours.
Antoine Decarne dans le Nord pour RTL. Reconfinement à Dunkerque, donc reconfinement à Nice. Qui sera le prochain ? La situation est également préoccupante dans une dizaine de départements. C'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui l'a dit. On devra en savoir davantage et savoir s'il y a des mesures supplémentaires qui sont prises ou pas demain à partir de 18h, puisque le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse.
Il y a les villes où l'épidémie flambe et puis celles qui semblent presque épargnées. Il y a notamment en Bretagne où le taux d'incidence est deux fois moins élevé que la moyenne nationale. Là, plusieurs élus réclament un allègement du couvre-feu. Face à l'épidémie, on est obligé de s'adapter au manque de vaccins, mais on risque peut-être aussi de manquer de tests. Ça consomme beaucoup de plastique jetable pour fabriquer les flacons, les pipettes. La demande est mondiale et la production a du mal à suivre. Christian Ponvert, vous êtes rendu dans une usine en Indre-et-Loire, l'un des tout premiers fabricants européens de pièces en plastique.
Patrick Findeling préside le groupe Plastivaloir. 6000 collaborateurs, 33 sites sur 4 continents. Il reconnaît que depuis 2 mois, il y a pénurie sur la matière plastique issue de la pétrochimie.
Cette pénurie qui risque de se poursuivre encore pendant quelques mois est due en particulier aux regroupements qui ont lieu depuis plusieurs années de grands trusts mondiaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes limités en concurrence de fournisseurs de matières plastiques. Donc ça nous génère des tensions sur les livraisons.
La Chine en consomme énormément en ce moment. Les marchés sont très tendus, mais Patrick Findeling reste confiant.
Un test PCR, c'est quelques grammes de matière plastique. Dans cette usine de Langeais, nous consommons entre 5000 et 6000 tonnes de matière plastique par mois. Donc quelques grammes pour les tests PCR, même si on fait des millions de tests PCR en France, ça va faire que quelques grammes. Il faut rester vigilant, mais il n'y a pas un risque très très important.
Il redoute en revanche une pénurie de composants électroniques dans les semaines à venir, qui va impacter non pas les tests Covid, mais l'industrie automobile.
Christian Panvert en Indre-et-Loire pour RTL. Conséquence de l'épidémie également, l'UNEDIC qui gère le régime d'assurance chômage prévoit un déficit de 10 milliards d'euros cette année. L'organisme anticipe la destruction de 230 000 emplois en 2021 avec la fin des aides et une conjoncture toujours fragile.
Pour éviter une vaccination à deux vitesses encore plus marquée, la première étape du dispositif COVAX, vous allez nous dire ce que c'est COVAX.
L'Organisation mondiale de la santé a prévenu, sans un accès mondial au vaccin, l'épidémie sera toujours là et les écarts sont très importants dans la distribution des vaccins entre les pays riches et les pays pauvres. Aujourd'hui, le Ghana vient de recevoir la toute première livraison de vaccins gratuits, 600 000 doses d'AstraZeneca. C'est ça, c'est la première étape du programme COVAX, un processus qui a pris du retard, Bénédicte Tassard.
Oui, enfin, la solidarité arrive sur le sol africain. Parce que déjà, il y a quelques semaines, on attendait des doses Pfizer-BioNTech en Colombie, au Pérou, au Rwanda ou encore aux Philippines, mais rien n'était venu. L'Organisation mondiale de la santé avait alors accusé certains pays riches d'avoir contacté directement les labos pour des commandes supplémentaires. Pays riches servis avant les autres. Autre obstacle, ces vaccins sont principalement fabriqués en Inde. Et les Indiens ont exigé d'être vaccinés avant qu'on ne se préoccupe occupe d'exporter des palettes vers les pays les moins développés. Alors aujourd'hui, le dispositif COVAX est bien parti. Le G7, les 7 pays les plus puissants, dont la France, ont doublé la mise avec 7,5 milliards de dollars. Et demain, l'Union européenne devrait également revoir son mécanisme de solidarité. Emmanuel Macron va proposer que 13 millions de doses soient livrées le plus vite possible à l'Afrique pour vacciner le personnel soignant du continent.
Les explications de Bénédicte Tassard pour RTL Les Plus, on l'apprend à l'instant. Une confirmation. Paris confirme qu'il y a bien un otage français détenu en Iran. Selon l'hebdomadaire Le Point et son site internet, il s'agirait d'un homme de 35 ans qui serait emprisonné depuis 9 mois là-bas. Il faisait du tourisme quand il a été interpellé, dit son avocat iranien. Dans un instant sur RTL, ça fait un drone et de ce drone tombe de la drogue qui tombe du ciel. Ça mérite quelques explications.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
19h10, la suite du journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Se faire livrer par drone, se faire livrer de la drogue par drone quand on est en prison, on se dit que c'est dans une série Netflix. Bah, pas du tout, c'est loin d'être de la science-fiction.
Oui, ça sert à faire passer de la contrebande aux prisonniers, pas seulement de la drogue. Ça fonctionne pas toujours comme prévu. Un drone un peu trop bien chargé s'est écrasé dimanche dernier dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Samuel Goldschmidt.
C'est une première à Nancy, mais la mission a été un lamentable échec considérant les défenses concentriques du centre pénitentiaire. Fadila Douki est la déléguée permanente force ouvrière à Nancy-Maxéville.
Il y a des barbelés, il y a de l'herbe avec les moutons, là, dès qu'il fait beau, qui viennent brouter l'herbe. Il y a un mur d'enceinte, après il y a un mur de ronde, et après il y a les cours. Et ce drone-là est parti de l'extérieur. Et il est arrivé dans le glacis. Il y a deux murs qui le séparent de la cour de promenade. Il y avait de la résine de cannabis attachée à ce drone avec un lacet. Bon, c'est que de la résine de cannabis. Mais demain, ça peut être une arme. Mais un de ces quatre, on va en avoir un à l'intérieur, dans la cour de promenade.
La déléguée n'est même pas étonnée par la méthode. C'est juste une tentative de modernisation des parachutages qui sont quasi quotidiens. D'ailleurs, à Nancy, une équipe dédiée s'occupe d'intercepter ce qui tombe dans l'enceinte. Elle ne compte plus les téléphones portables, bien sûr, les chargeurs, mais aussi de la drogue quotidiennement, de la nourriture, parfois des armes blanches artisanales. Les gardiens ont même intercepté un jour, et c'est authentique, un petit service complet à raclette.
Et ben voilà le récit de Samuel Goldschmidt pour RTL.
Pardon.
Allez, après le meurtre d'une collégienne dans l'Essonne lundi, 6 adolescentes étaient présentées à un juge d'instruction cet après-midi. Âgés de 14 à 16 ans, l'un d'entre eux a reconnu avoir donné le coup de couteau. Les bagarres entre bandes de jeunes ont fait 2 morts en 2 jours dans ce département de l'Essonne. Elles se sentent invisibles. 3e mobilisation nationale des sages-femmes en 1 mois. Leurs représentants syndicaux ont été reçus au ministère de la Santé tout à l'heure. Leurs conditions de travail sont souvent compliquées. Elles souffrent surtout d'un manque de reconnaissance. Sandrine Bensi est sage-femme depuis 20 ans au CHU de Toulouse.
La profession de sage-femme, c'est 5 années de médecine et nous démarrons à 1750 euros. Nous ne sommes pas du tout reconnus. Nous avons été très présentes pendant cette pandémie et nous le sommes encore. Nous sommes en première ligne. Les sages-femmes, il ne faut pas oublier qu'elles font pousser les patients sans masque, donc nous sommes vraiment en première ligne du virus. Nous sommes pour la plupart beaucoup de femmes qui nous occupons de femmes et nous avons l'impression de ne pas être entendues en fait.
Parce que vous êtes une femme, c'est ça ?
Je pense, oui. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, oui, tout à fait.
Des propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL. On a appris aujourd'hui la mort de l'écrivain Joseph Pontus, emporté par un cancer. Il avait seulement 42 ans, auteur du roman À la ligne, tiré de son expérience d'intérimaire dans l'industrie agroalimentaire en Bretagne. Un texte sans ponctuation, comme un chant ou un poème. Il avait été récompensé du Grand Prix RTL Lire en 2019.
Voilà, et pour rendre hommage à Joseph Pontus, on peut relire son livre À la ligne, puis on va le réécouter, quelques mots de lui.
Ah bah je crois que c'est la plus belle langue du monde. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours été nul dans toutes les autres langues. Je crois que je ne connais que le français. J'enrage dès que je rate une liaison ou quand j'entends une faute de grammaire. C'est pour moi ma vie, c'est mon français. C'est tous les auteurs qui ont écrit dans cette langue. C'est... Je crois déjà que la France, c'est le plus beau pays du monde. Je pourrais pas partir vivre à l'étranger. Quand je reviens de vacances et que j'entends à nouveau parler français, j'ai l'impression de renaître.
Il est parti loin, Joseph Pontus, emporté donc à 42 ans. Il nous parlait là de sa passion pour le français quand il a reçu justement ce Grand Prix RTL Lire en 2019. On termine avec les habitués des tribunes qui terminent au tribunal, c'est l'OM.
Ouais, ils sont 14. Le procès des supporters de l'OM, accusés d'avoir participé aux incidents du 30 janvier dernier. Plusieurs centaines de fans en colère contre les dirigeants du club qui avaient pris d'assaut la commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Certains avaient même réussi à rentrer à l'intérieur. Hugo Hamelin, vous suivez leur procès pour RTL. Le parquet de Marseille a requis de la prison, principalement du sursis.
Ouais, prison avec sursis, 8 mois de prison avec sursis pour chacun, malgré des situations qui étaient bien différentes. Une punition collective, c'est justement ce que redoutait la défense. Déclaration minimaliste à la barre et naïveté surjouée de la part de ces 14 prévenus, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Je pensais que ce serait une manifestation pacifiste. Je n'ai rien détruit, clame l'un d'eux. Ils sont accusés de dégradation ou d'attroupement en vue de commettre un délit. Mais pour le prouver, il faut qu'il y ait eu préméditation. Maître Besset défend plusieurs supporters olympiens.
La préméditation ou la façon dont on a pu se concerter sur place éventuellement et créer un groupe sur place, mais ces éléments-là n'existent pas dans le dossier, il n'y a rien qui le montre. En réalité, aujourd'hui, ceux qui sont censés avoir commis des actes graves et avoir fait dégénérer cette manifestation restent totalement inconnus.
Personne n'est identifiable sur les images de vidéosurveillance. Vous l'avez dit, donc 8 mois de prison requis avec sursis de la part du procureur. La décision devrait tomber ce soir. Mais l'affaire de la commanderie n'a pas fini de faire parler d'elle devant les tribunaux puisque 2 leaders de groupes de supporters seront jugés dans 1 mois pour savoir s'ils ont commandité ou non cette violente intrusion.
Un compte-rendu d'audience signé Hugo Hamelin pour RTL. En rugby, le match entre la France et l'Écosse est maintenu. Dimanche prochain, décision du comité du tournoi Destination malgré les 14 cas de Covid identifiés chez les Bleus.
Il y aura donc bien du rugby ce week-end. Merci beaucoup à vous Alexandre. On vous retrouve tout à l'heure à 20h. La météo demain, beau, bah si, fait beau.
Oui,
beau
voilà.
Presque partout.
Oui,
presque partout.
Presque exactement, sur les 3/4 du pays en fait, parce qu'on a une perturbation qui arrive demain sur le nord-ouest entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. Donc cette perturbation va donner beaucoup de nuages et juste quelques faibles pluies. D'ailleurs, la pointe bretonne retrouvera l'après-midi des éclaircies. On a également un ciel plus nuageux sur le golfe du Lion avec quelques gouttes le matin. Ça ira mieux l'après-midi, mais ça restera nuageux avec du vent. Et partout ailleurs, sur les 3/4 du pays, ce sera une très belle journée bien ensoleillée après dissipation des grisailles matinales. On va retrouver des températures toujours au-dessus des normales, même si elles seront en baisse demain. On se couvre quand même le matin. 2 degrés à Dijon, 3 à Mulhouse, 7 à Marseille, 8 à Lille, 10 à Paris et les maximales, 13 à Caen, 15 à Lille, 17 à Nice, 18 à Montauban, Limoges, Nancy et Paris et 20 degrés à Mulhouse et Lyon.
Alors Peggy, on va bien profiter de cette journée de jeudi jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire jusqu'à 18h, parce qu'après vendredi, ça va se dégrader.
Ça se dégrade, alors pas pour tout le monde, mais cette perturbation de la veille, en fait, elle va s'enfoncer dans le pays. Ça va donner un ciel bien chargé du sud-ouest au nord-est avec des pluies du Limousin aux frontières du nord. De part et d'autre, on devrait retrouver du soleil. Samedi, finalement, ce sera relativement instable entre nuages éclaircis et averses sur le nord. Ça restera beau dans le sud. Dimanche, un peu plus nuageux que prévu sur le nord-ouest également et ailleurs du beau temps. Mais promis, lundi, mardi, mercredi et le reste de la semaine, on devrait retrouver un beau soleil partout. Les températures vont commencer à baisser à partir de samedi. On retrouvera des températures plus proches des normales. Ça veut dire une moyenne de 10 au nord et de 14 au sud, mais on sera quand même toujours légèrement au-dessus.
Et puis il y a le printemps qui arrive bientôt là.
Oui, bientôt, on attend.
Merci beaucoup.
Patiente.